source. Merci d'être venu. Présenter Mathieu. Mathieu va se présenter tout seul, c'est une grande personne, je pense. Donc, merci de venir au site des Pensées Sauvages, donc organisé par Subversité. Subversité qui est un collectif anticapitaliste sur Québec, mais aussi anti plein d'autres choses, antiraciste, anti-homophobie, pour l'écologie, etc. Et nous, on ne savait pas trop quoi faire l'hiver. Et on s'est dit, réunissons-nous au chaud, même si aujourd'hui il fait un peu chaud, pour penser ensemble, avoir des discussions et en sortir plus riche. Nous on est content, on mène à bout ce projet, c'est un beau projet, et on le mène grâce à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Donc n'oubliez pas soit de consommer, aussi on fera passer un chapeau pour la librairie, parce que c'est un lieu qu'on aime bien.
Mais ce soir, je pense que c'est pas beau.
Je vais le micro parce que je me suis dit que ça aiderait à la concentration et au plaisir et au bonheur des gens dans le fond de la salle. M'entendez-vous?
Oui.
J'essaie de faire un contact visuel aussi, mais ça va être plus occasionnel. Bon, bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de la soirée. Merci à la librairie aussi de nous accueillir en ces murs. Je m'appelle Mathieu Hulcourcel. Je suis présentement étudiant au doctorat en histoire à l'Université Laval. Comme peut-être plusieurs d'entre vous, le 1er mai, fait trois fois plus tôt qu'une, je serai en grève. Parce que trois groupes dans lesquels je milite, ou dont je suis membre, qui seront en grève le 1er mai. Donc, si on commence par les étudiants, l'Association étudiante d'histoire au 2e, 3e cycle à Laval va être en grève. Ensuite, le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, on se trouve ici dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, sera en grève aussi, comme 300 autres groupes communautaires et populaires à travers le Québec.
700 maintenant.
Oh, ça a doublé.
Ils sont plus que doublés.
D'accord. Et aussi le syndicat dont je suis membre, l'IWW, le syndicat industriel des travailleurs et travailleuses, sera en grève. Bien que ce ne soit pas un syndicat très orthodoxe, on sera en grève quand même. J'expliquerai pourquoi si ça vous intéresse, on n'est pas un syndicat orthodoxe. Donc le 1er mai va être souligné par des grèves, y compris des grèves illégales, chez des profs de cégep notamment, cette année. Et il me semble que c'était à propos de revenir un peu sur l'histoire du 1er mai, dans cette dimension internationale, mais dans cette dimension très locale et nationale, dans le sens où ce soir, on va aborder justement les racines de cette tradition inventée par le mouvement ouvrier, qui est le 1er mai, la Journée internationale des travailleurs et travailleuses, la fête du travail, la fête des travailleurs. Ça a pris plusieurs noms, ça continue d'en prendre plusieurs, et ça porte à débat d'ailleurs. Et donc d'en parler aussi dans cette dimension très, en fait, québécoise, en revenant un peu sur les premières manifestations du 1er mai au Québec, à Montréal en 1906 et 1907. Et aussi, puisqu'on est à Québec, faire un petit détour par Québec pour parler de la première manifestation qui a eu lieu ici en 1973. Bon, c'est juste 65 ans plus tard, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y en ait une et d'autres par la suite. Puis on verra dans quel contexte et quelle charge symbolique ça a, ces manifestations-là du 1er mai. Parce que c'est pas un jour ordinaire, c'est pas une fête ordinaire. Donc, si on revient aux origines du 1er mai, d'où vient cette tradition inventée? Inventée parce que c'est pas de tout temps qu'elle existe, évidemment. C'est le mouvement ouvrier qui s'est donné cette journée-là. Et elle se l'est donnée dans un contexte bien précis à la fin du 19e siècle où la lutte pour la journée de travail de 8 heures est au cœur des revendications portées par les mouvements ouvriers à travers l'Occident. En 1889, lors d'un congrès international qui se tient à Paris, des délégués venant d'Amérique et d'Europe choisissent de se donner le 1er mai 1890 comme première journée de lutte internationale pour la journée de 8 heures. D'où vient pourquoi le 1er mai? Ben, il y a un délégué américain qui se rappelle que 3 ans plus tôt, aux États-Unis, à Chicago, il y a eu une grève sur la même revendication qui a été durement réprimée, où plusieurs leaders ouvriers ont été arrêtés, certains vont être pendus. Mais le 1er mai en Europe fait aussi écho à quelque chose d'une tradition très ancienne, des traditions paysannes. Le 1er mai, c'est aussi le renouveau. C'est le printemps. C'est pas pour rien que par la suite, avec le 1er mai, on marque un temps. On dit on passe à autre chose. On lance des projets. On lance des mots d'ordre. Donc, c'est ces deux moments-là qui se rencontrent. Puis aussi, ben, le 1er mai, il n'y avait pas d'autres fêtes cette journée-là, il faut bien le dire. Il y en a qui ont proposé le 14 juillet, il y en a qui trouvaient que c'était un peu trop franco-français. Donc, le 1er mai, c'est une date qui faisait le bonheur de tout le monde. Bien que les délégués américains, c'est-à-dire anglais et allemands, ils disaient « Ouais, le 1er mai, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait si ça tombe un lundi, un mardi? On ne pourrait pas faire ça le dimanche avant le 1er mai? » Les autres délégués, la majorité, c'est plutôt dit « Non, 1er mai, c'est le 1er mai. » Et puis, ça sera fêté cette journée-là, point à la ligne. Alors, on part comme ça, 1er mai 1890, première journée. Mais en Amérique du Nord, c'est une autre journée qui est déjà soulignée à ce moment-là. Quelle est cette journée?
La fête du travail.
La fête du travail, le?
Premier lundi de septembre.
Mais c'est une autre tradition ouvrière. Avant de devenir une fête qui s'institutionnalise, puis qui est comme... où on dit, c'est pas notre fête à nous, c'est la fête qu'on nous impose. Et c'est pas la fête des travailleurs, c'est la fête du travail. Il faut savoir que dès 1880, en Nouvelle-Écosse, dans les villes minières, on souligne le premier lundi de septembre une fête du travail. Cette fête-là se fête de façon locale. Les ouvriers lâchent le travail. Des maires locaux vont des fois déclarer que c'est une journée qui est chômée aussi. Mais à une échelle locale. Après la Nouvelle-Écosse, des villes industrielles en Ontario, après Montréal en 1886, Vancouver en 1890 et Québec en 1891 vont souligner la fête du travail le 1er lundi de septembre. Donc, on voit, il y a comme deux... C'est ce fait de façon parallèle. Ces deux traditions-là évoluent de façon parallèle. Mais elles se font aussi écho. Et j'en ai pour preuve une petite citation ici qui vient d'un journal qui s'appelle Le Canadien, publié ici à Québec, 13 juin 1891. La démonstration, il parle de celle du 1er septembre 1891, donc la fête du travail à Québec, la démonstration aura un caractère tout à fait pacifique. Et nous ne verrons pas se répéter ici les scènes de violence et de désordre qui ont fait du 1er mai en Europe un jour de terreur. Dans les vieux pays, depuis quelques années surtout, les autorités gouvernementales, à l'approche du 1er mai, s'émeuvent. Un malaise profond se répand dans toutes les classes de la société. Et l'on se demande si la démonstration ouvrière de ce jour ne se terminera pas par une révolution sanglante. L'anarchisme se met de la partie. Les chefs socialistes excitent à la sédition les ouvriers paisibles par leurs discours échevelés. Ils enflamment les mauvaises passions de la foule, qui, une fois en délire, oublie tous les devoirs et tous les droits pour se livrer à tous les abus. La fête qui aura lieu à Québec le 1er septembre est bien différente et les préparatifs en sont tout autres. Nous les entrevoyons donc avec joie et nous souhaitons aux ouvriers le succès qu'ils méritent. Alors, c'est comme ça qu'on entrevoit le 1er septembre à Québec en 1891. C'est seulement en 1894 que, suite à un accord qui intervient entre des leaders syndicaux et le gouvernement, la fête du travail du 1er septembre va devenir une journée fériée au Canada. Cette même année-là, commence à se structurer un peu mieux le mouvement socialiste au Canada et au Québec. C'est des hasards comme ça de l'histoire. Mais il faut attendre 15 ans encore, presque 15 ans, pour que, pour la première fois, des militants et des militantes socialistes décident de fêter le 1er mai au Québec, en 1906. Donc, cette première manifestation-là à Montréal n'est pas la première au Canada. 2 ans plus tôt, dans des camps de mineurs du nord de la Colombie-Britannique, il y avait eu des assemblées. À Vancouver, en 1905, il y avait eu un pique-nique le 1er mai, en fait la veille du 1er mai. Et le soir du 1er mai, on avait tenu une assemblée sur les marches de l'hôtel de ville. Donc, mais Montréal, en fait, à ce moment-là, est en ébullition, est en transformation. Il y a énormément d'immigrants et d'immigrantes qui arrivent d'un peu partout en Europe, des États-Unis. Il y a aussi des échanges qui se font, des gens du Québec qui vont vers les États-Unis, qui en reviennent. Donc, il y a un brassage et la population croît rapidement. Et les idées socialistes circulent de façon plus importante. Malgré tout, même si depuis deux ou trois ans, on voit se multiplier les assemblées publiques organisées par des socialistes à Montréal, la rumeur court qu'ils vont organiser une manifestation le 1er mai, il y a pas mal de monde qui sont un peu incrédules. Entre autres, un chroniqueur ouvrier dans le journal La Patrie qui dit « Bon, il est question, paraît-il, d'une manifestation socialiste, mais nous sommes persuadés que pas une seule des unions professionnelles locales affiliées aux unions internationales, ça c'est des syndicats américains présents au Québec, ne prendra part à cette manifestation, si toutefois elle a lieu. La seule fête que ces syndicats reconnaissent pour le travail est celle du premier lundi de septembre. » Quelques jours plus tard, le même chroniqueur va dire « On annonce la présence probable de Maxime Gorky. » Alors, qui est Maxime Gorky? Quelqu'un le sait?
Un militant russe.
Un militant russe, oui. Un écrivain et un dramaturge qui est emprisonné suite à la révolution de 1905, qui part aux États-Unis en exil. Bon, Maxime Gorky n'est pas à Montréal le 1er mai 1906, il est à New York, mais la rumeur court qu'il pourrait être à Montréal. Les gens ont hâte de voir quelles figures vont faire les socialistes à cette première manifestation qu'ils organisent ici à l'occasion de la fête du 1er mai. On se demande également s'ils défileront le drapeau rouge en tête de leur procession, notez le mot. Il paraît que les avis sont partagés parmi les chefs sur l'opportunité de s'affirmer aussi catégoriquement, mais la majorité est en faveur que l'on arbore ce signe distinctif. Évidemment, quand un chroniqueur ouvrier dans le journal, un des journaux les plus lus de Montréal, fait état de cette rumeur-là qui enfle, la police finit par prendre position. Et elle dit qu'à la moindre tentative d'ennuyer les passants ou les simples curieux, elle devra faire rompre les rangs de la procession encore, et s'il y a des résistances, d'arrêter les manifestants trop zélés ou trop ardents. Alors, là, les gens, les journaux montréalais cherchent à savoir, mais qui va organiser cette manifestation-là? En fait, ce qu'on voit se dessiner, c'est une grande coalition. Une coalition qui est formée par six acteurs différents. D'abord, des anarchistes juifs, qui sont arrivés depuis deux ou trois ans, qui arrivent surtout de Russie, et qui sont regroupés, pour la plupart, au sein du groupe Aide Mutuelle, qui est un cercle de discussion et de débat. Ces anarchistes collaborent étroitement avec un syndicat révolutionnaire, l'IWW, Industrial Workers of the World, qui compte deux sections à Montréal à ce moment-là dans l'industrie, dans les manufactures de vêtements. Plusieurs militants de ce syndicat à Montréal sont membres d'une organisation politique socialiste qui s'appelle le Socialist Labor Party, qui est présent aux États-Unis. Et on retrouve à côté de ces militants-là, socialistes, révolutionnaires et anarchistes, des socialistes de langue française, qui eux sont membres d'une autre organisation, le Parti socialiste du Canada, qui eux-mêmes sont en lien avec des gens qui sont aux États-Unis. Ils distribuent à Montréal même un journal socialiste fait aux États-Unis en français, et ils distribuent ce journal-là à Montréal. Il y a aussi des sociaux-démocrates allemands, qui vivent à Montréal depuis un bon bout de temps, mais qui ont gardé des liens avec l'Allemagne, et finalement, parce que le portrait ne serait pas complet sans eux, vous comprendrez plus tard, des membres de la Fédération socialiste italienne, qui, comme son nom ne l'indique pas, est composée principalement d'anarchistes à Montréal, mais en fait déjà de différentes tendances, des différents courants révolutionnaires. Tout ce beau monde-là, finalement, depuis deux ou trois ans, organise de son côté, dans sa langue, dans son milieu, des assemblées publiques qui ont un certain succès. Mais pour la première fois, ils vont se réunir et organiser ensemble une manifestation qu'ils vont planifier tout l'hiver 1906. Alors, ça va bien, ils se réunissent, il y a même 200, 250 personnes, des fois, dans la dernière semaine pour planifier la manif. Là, c'est quand même gros là, comme organisation. Mais là, il y a comme un doute qui les assaille. Là. Comme quelque chose, un bruit là, de derrière leur oreille qui dit... Ça vient surtout des milieux ouvriers juifs. Ils disent, ouais, mais là, le 1er mai... S'il y a juste nous autres qui descendent dans la rue, là, s'il n'y a personne qui parle français à nos côtés, s'il n'y a personne qui parle anglais à côté de nous, si on est juste des immigrants fraîchement arrivés, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est évidemment la crainte de servir de bouc émissaire dans un environnement assez hostile qui les amène à aller chercher des garanties qui vont leur être offertes à la dernière minute par des militants socialistes de langue anglaise et française. Finalement, le 1er mai, à l'heure dite, devant la salle Empire, qui en fait, c'est un croquis du journal La Patrie publié le 2 mai 1906, qui représente le rassemblement, cette salle-là, en fait, qui est sur la rue Sainte-Catherine, au coin de la rue Saint-Laurent, est vraiment le haut lieu, là où à peu près toutes les conférences organisées dans l'année précédente se tiennent. Des conférenciers anarchistes italiens, juifs, font des conférences dans cette salle-là, et c'est là qu'ils vont se réunir avant de manifester dans les rues. Combien étaient-ils? Bon, les journaux, on les connaît. Assez bien. Ils étaient entre 200, 250 et 1000. Les organisateurs, on les connaît eux aussi. On était 1800. Deux mois plus tard, nous étions 3000. Et dans un autre journal, non, nous étions 4000. Et deux ans plus tard, ah, c'est un tel a dirigé la grande manifestation où 7000 personnes ont manifesté à Montréal. Bon, alors, c'est pas ce soir qu'on va trancher. On peut toujours prendre un pool, là, si vous voulez, pour savoir combien ils étaient. Là. Mais ça risque d'être... Donc... Mais ils étaient, on va dire, plusieurs centaines à quelques milliers. Ils vont prendre la rue, précédés d'une fanfare italienne. D'ailleurs, dans la tradition du 1er mai en Italie, si vous regardez des manifestations du 1er mai avant la Première Guerre mondiale, dans les années 70, on dirait qu'il y a toujours une fanfare dans les 1er mai en Italie. Vous irez sur YouTube voir, il y a quelque chose là-dedans. Donc cette fanfare joue quoi? Elle joue l'international. Elle joue la Marseillaise en alternance. Et on trouve aussi dans le cortège des bannières syndicales, des bannières politiques, avec des slogans en français, en yiddish, qui est la langue parlée par les immigrants juifs d'Europe de l'Est, en espéranto, la langue internationale, et en anglais. Citation du journal The Gazette. Je vais sortir mon plus bel accent. About 300 socialists, men and women, of various nationalities, tramped out the Empire Hall in a martial array last night with a loud whoop of triumph. Il était bien content. Though heterogeneous from a national standpoint, this motley crowd were fired by a common enthusiasm. Frenchmen, Belgians, Italians, Germans, Jews from various European countries, and a few Canadians of Irish and French descent, hobnobbed together in close fraternity. The majority were in the heyday of life. Ils étaient dans leur... On pourrait dire dans... Comment on pourrait dire ça? Dans la fleur de l'âge, merci. But several showed signs of age and domestic responsibility. Donc, vous pouvez déduire ce que vous voulez. Bon. A dozen or so women seemed particularly anxious to take part in the procession, encore la procession, and tug at their escorts to obtain a good place. On parle des femmes ici. Some were accompanied by their husbands, others by their sweethearts, while a few ventured without male attendants. Donc, on dit, certains étaient avec leur mari, d'autres avec leur petit ami, leur amoureux. Et quelques-unes étaient même là sans avoir de supervision masculine. Alors, quelle place occupent les femmes dans cette manifestation? On en voit quelques-unes dans le croquis. Ce qu'on sait, c'est qu'une quinzaine d'ouvrières d'une manufacture de vêtements ont fait la grève ce jour-là pour participer à la manifestation et revendiquer la baisse de leurs heures de travail et la reconnaissance de leur syndicat. En fait, leur grève vient même contredire les affirmations de plusieurs leaders syndicaux qui disaient, qui étaient certains, qui assuraient tout le monde que jamais aucune grève ne serait déclenchée à Montréal le 1er mai. Alors, ces ouvrières-là et leurs collègues masculins leur prouvent le contraire. Quelle est la réaction de la presse, de l'opinion publique, entre guillemets, sur cette manifestation-là? Bien, la presse libérale, de langue française, accueille avec une certaine bienveillance la manifestation. C'est surprenant, mais en gros, ils ont bien fait ça, il n'y a pas eu de sang versé, c'est des citoyens responsables, ils ont parlé, ils ont fait des discours, bien correct. Mais évidemment, bon, on s'entend, on est au Québec, donc jamais leurs idées vont prendre racine ici. Nos ouvriers sont bien trop contents de leurs conditions de travail pour participer à ces folies-là. Mais quand on regarde ce que dit la presse catholique de langue française, là, on a un autre son de cloche. En fait, il y a deux choses qui grattent un peu, qui dérangent la presse catholique. La première, évidemment, c'est la manifestation en tant que telle, et ce qui se passe une semaine plus tard. Parce que les socialistes ne sont pas contentés de n'organiser qu'une manif. La semaine d'après, au même endroit, ils vont faire venir quelqu'un qui est très connu. Emma Goldman va venir pour la première fois, l'anarchiste d'origine lituanienne, à Montréal. À peu près une semaine après le 1er mai 1906, faire une conférence en public. Et là, whoops, là, ils se rendent compte que c'est un mouvement qui a des racines et qui tente de faire des petits. L'autre chose qui les dérange profondément, c'est ce qui s'est passé pendant la manif. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui passe presque inaperçu dans les comptes rendus, mais qui pour eux va avoir une très très grande importance. Quand la manifestation passe devant la succursale montréalaise de l'Université Laval, parce qu'à l'époque l'Université de Montréal n'existe pas encore, eh bien, il y a des étudiants qui ne font pas la grève et qui voient la manif passer, qui traitent les manifestants et les manifestantes de canailles. Ce à quoi la manifestation répond en français, abat le pape, abat la calotte. Et même certains journalistes anglophones vont dire, ils notent, vive l'anarchie. Alors, c'est dans les rapports de police de l'année suivante, là, se servent de cet événement-là devant l'Université Laval pour dire que l'année prochaine, il n'y en aura pas de manifestation du 1er mai. Et on va être prêts et prêtes à leur faire face. Donc ça, on a ici le coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent en 1905. Donc on voit un peu l'environnement dans lequel la manifestation débute. C'est assez typique là, de l'époque. Donc on s'imagine, on ne voit pas la salle Empire par contre sur cette photo-là. Un des militants canadiens-français les plus impliqués dans l'organisation, qui est présenté de différentes façons comme un des organisateurs clés, bien, c'est Albert Saint-Martin, ici en première page du Passe-Temps. Musical, littéraire et fantaisiste, en 1905. C'est un de ceux, probablement, qui a le plus insisté pour qu'il y ait des bannières en espéranto, parce que d'ailleurs, dans ce numéro-là, c'est un numéro spécial où il y a un article sur ce sujet, sur l'espéranto. Donc, on a vu 1906, la manifestation. Oups. Maintenant, 1907. Ça change un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, si on veut faire une histoire courte, c'est grosso modo les mêmes acteurs, les mêmes organisateurs et organisatrices que l'année précédente. Donc le mix de socialistes de langue française, de révolutionnaires italiens, juifs, d'anarchistes, de syndicalistes révolutionnaires, etc. Et quelques syndicats, déjà quelques unions internationales. Donc comme quoi, ils n'étaient pas totalement absents non plus. À peu près deux semaines avant le 1er mai, les étudiants de l'Université Laval, qui n'ont comme pas digéré ce qui s'est passé l'année d'avant, écrivent une lettre aux journaux où ils dénoncent la voyoucratie qui va défiler dans les rues de Montréal le 1er mai 1907 et qu'il faut absolument empêcher de défiler. La lettre des étudiants va être relayée après dans une lettre pastorale qui est écrite par l'évêque de Montréal et qui va être lue dans toutes les églises de Montréal le dimanche qui précède la manifestation, demandant à tous les... amis de l'ordre, de se coaliser pour empêcher la tenue de la manif. Il y a un rapport de police qui est commandé par la ville qui dit « Oh, oui, 1906, ça a brassé pas mal. Il y a des manifestants qui ont crié des slogans anarchistes pendant tout le long de la manifestation. C'est vraiment, là, ça... » Puis ils insistent « Anarchie, 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 ça revient dans leur rapport plusieurs fois. » La salle que les socialistes avaient louée pour le 1er mai, le Monument national, une des plus grandes salles à Montréal, quelques jours avant la manif, whoops, ben on ne sera pas capable d'honorer le contrat. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de contrat. D'ailleurs, vous n'aurez pas la salle que vous avez louée. Oups, pas de salle pour tenir le rassemblement. Finalement, cerise sur le Sunday, le maire de Montréal décide que, ben devant tout ça, il n'y a pas d'autre choix que d'empêcher la manifestation d'avoir lieu. Mais évidemment, c'est des sujets britanniques, on ne peut pas leur empêcher de prendre la parole en public, c'est un droit qui est reconnu. La manifestation, on craint pour l'ordre public, donc elle n'aura pas lieu, mais vous pouvez faire un rassemblement. S'il est en plein air, il ne faudrait pas se rassembler en groupe pour faire votre rassemblement. il ne faudrait pas non plus tenir des discours qu'on pourrait entendre, que d'autres pourraient mal interpréter. Donc, voyez un peu, genre, vous avez le droit, tous les droits vous sont garantis, mais l'exercice, c'est une autre paire de manches. Ça vous rappelle quelque chose?
Oui.
Devant cette attitude-là de la mairie, ça suscite des divisions chez les dans le comité organisateur, entre deux tendances. Ceux qui disent « on va manifester coûte que coûte le 1er mai, on va prendre la rue, on va sortir nos drapeaux » parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, pas de drapeau rouge non plus parce que ça fait de la provocation. Donc, on va faire ça comme on l'avait prévu, puis au diable, arrivera ce qui arrivera. Et la tendance majoritaire dit « ben, savez-vous, on n'a pas vraiment le goût de se faire arrêter. » Fait qu'on va essayer de contourner l'obstacle pour arriver au résultat qu'on s'est fixé, c'est-à-dire être capable de prendre la parole, faire parler de nous, mais de façon positive, pour pas servir, encore une fois, de bouc émissaire à la répression, puis servir le jeu du pouvoir. Donc, c'est finalement cette tendance-là qui l'emporte dans les discussions. D'ailleurs, les socialistes sont tellement préoccupés par l'image qu'ils projettent d'eux, qu'ils permettent à deux journalistes, pas un, deux journalistes d'être présents à la réunion où ils décident quelle attitude ils vont avoir pour le 1er mai. Ils envoient un communiqué le lendemain qui détaille tout ça. Donc, ils louent une autre salle, plus petite, qui contient à peine 200 personnes. Et ils décident finalement, en sortant, ils ne manifesteront pas dans la rue, mais ils vont quand même sortir des drapeaux rouges de la salle. Et, tenez-vous bien, ils vont faire leur manifestation en calèche. C'est l'idée qu'ils ont trouvée pour se rendre à leur autre point de rassemblement. Mais la police ne voit pas les choses sous cet œil. Et à leur sortie de la salle, il arrive ça. Donc, on imagine, on sort de la salle, on se prépare à embarquer dans la calèche, on sort nos drapeaux, puis là, oups, la police nous tombe dessus. Pas quelques policiers, beaucoup de policiers. Ils ont mobilisé à peu près tout ce que la ville de Montréal compte comme force policière. Et on saisit les drapeaux, tous les drapeaux qu'on peut trouver, et on arrête ceux et celles qui résistent à tout ça. J'ai une autre illustration ici qui est de moins bonne qualité, mais où on voit la même chose. Donc, des gens, des policiers à cheval, des gens qui se poussent et qui essaient autant que possible de garder leur drapeau, mais ça ne fonctionne pas très bien. Donc, malgré tout, ils vont réussir à se rendre à leur point de destination par petits groupes au Champ de Mars, qui est une grande esplanade publique. Et là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au Champ de Mars, donc cette grande esplanade près de l'Hôtel de Ville, il n'y a pas juste les socialistes qui ont décidé d'être là pour tenir un rassemblement. Il y a leurs amis, les étudiants de l'Université Laval, qui n'étaient pas contents, eux, d'avoir réussi à foutre le bordel dans tout ça. Ils décident de tenir une contre-manifestation au Champ de Mars en même temps que le Rassemblement socialiste. Donc, quand ils entendent l'international, qu'est-ce qu'ils répondent? Par le Haut-Canada, comme c'est beau. Et donc là, on voit tout de suite la joute qui se fait, la joute verbale. Mais il n'y a pas juste les étudiants au Champ de Mars, il y a aussi la milice qui a décidé de faire des exercices ce jour-là. Puis qu'il n'est pas question de déroger à ça. Et il y a aussi 200 policiers qui sont là et qui observent la scène. Et à un certain moment donné, les étudiants chargent les gens qui étaient rassemblés, la police intervient, et bon, c'est la débandade, c'est la confusion. Et c'est comme ça que se termine la manifestation du 1er mai 1907. Évidemment, le post-mortem que font les organisateurs et les organisatrices est très amer. Mais encore là, leur réaction, c'est de dire, le maire, on s'est fait avoir par le politique, on est des sujets britanniques, on a des droits et on va les faire respecter. Et en gros, les années suivantes, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ça ressemble à ça le 1er mai à Montréal. Jusqu'à la fin des années 20, c'est un chassé-croisé entre la police et les manifestants. Et ça devient, en fait, des manifestations qui sont là pour affirmer le droit de manifester, le droit de parader. Donc, d'être dans la rue, de parler en public et d'afficher nos drapeaux, nos couleurs politiques. Et ça devient l'objectif de la manifestation, c'est d'apparaître publiquement et de manifester. Après la Première Guerre mondiale, à chaque moment qu'il y a des poussées, des fièvres ouvrières, comme par exemple en 1919-1920, le 1er mai va prendre une dimension de masse très importante. Des milliers de personnes vont prendre la rue dans ces moments-là. Les années plus tranquilles, bien le nombre de participants baisse. Dans les années 20, il y a des divisions profondes dans le mouvement ouvrier entre une aile communiste et une aile socialiste non communiste. Et souvent, le 1er mai, il va y avoir des rassemblements distincts. À la fin des années 20, la mairie va interdire complètement toute manifestation dans les rues de Montréal. Donc, ça ramène le 1er mai uniquement dans les salles. Il y a une répression féroce et beaucoup d'arrestations. Même distribuer des tracts le 1er mai devient illégal à Montréal avant la Deuxième Guerre mondiale. Si on fait un petit saut dans le temps, ben là on ne le voit pas, là, mais ici on a le manifeste du 1er mai 1920. Qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres? Pas dans l'entre-deux-guerres, après la Deuxième Guerre mondiale. Il arrive une manœuvre un peu spéciale qui resterait à creuser. Comment l'Église catholique, qui on se rappelle était ardemment contre le 1er mai, va tenter de christianiser le 1er mai au Québec. En 1954, ils vont même organiser une manifestation le 1er mai à Montréal. Et ce n'est pas une date qu'ils choisissent au hasard. Le 1er mai, c'est une date choisie par les communistes à travers le monde pour manifester. Nous, on va en faire une fête catholique et on va mobiliser les syndicats catholiques à Montréal pour manifester dans nos rues. Donc, on voit dans les années 50, il y a une telle hystérie anticommuniste que ça devient une chasse aux sorcières qui rend extrêmement difficile toute forme d'organisation. Le 1er mai, donc, est souligné par des événements à caractère privé. Il faut attendre les années 60 pour qu'on revoie des assemblées et des événements publics le 1er mai. 1964, il y a une coalition d'une douzaine d'organisations de gauche qui organise une assemblée publique à Montréal. 1969, des groupes de gauche, encore une fois, organisent le 1er mai une assemblée publique. Mais il devait y avoir cette année-là une manifestation organisée par la CSN à Montréal. Mais à la dernière minute, Chartrand, notre ami Chartrand, décide d'annuler la manifestation parce qu'il croit que les ouvriers, les ouvrières ne viendront pas dans la rue, ne descendront pas dans la rue le 1er mai. Et ça fait l'objet de nombreuses critiques. Donc, il y a quand même des discussions qui ont lieu le 1er mai et on commence à parler du deuxième front, donc de cette volonté de l'organisation syndicale de sortir des cadres de l'usine, du lieu de travail, pour adresser les problèmes que vivent les travailleurs et les travailleuses à l'extérieur. La question du logement, de la consommation. Donc, on se sert du 1er mai comme moment aussi pour discuter de questions qui débordent le cadre strictement syndical. Même chose en 1970, à l'exception que cette année-là, on voit déjà se dessiner les conditions du Front commun de 1972, donc de cette alliance des grandes centrales syndicales québécoises qui vont se réunir pour faire face notamment à l'État québécois. En 1970, le 1er mai, 5000 manifestants à Montréal. C'est vu comme une grande réussite parce que la manifestation est organisée par les trois centrales qui, ensemble, vont manifester dans les rues. Et là aussi, ça s'inscrit dans un contexte international très fort, un contexte local aussi de radicalisation des luttes, un peu avant la crise d'octobre. Par exemple, on parle beaucoup à ce moment-là du boycott des raisins californiens. Il y a César Chavez, le leader des syndicales qui est en Californie, qui vient à Montréal aussi. Donc, on essaie d'inscrire le mouvement ouvrier québécois dans un contexte plus général de lutte et de solidarité internationale. Le 1er mai 1972, alors que le Québec est en ébullition, alors que le Front commun se dessine, il n'y a pas de manifestation le 1er mai. C'est étonnant, mais il y a une assemblée, par contre, qui se tient, une assemblée intersyndicale. C'est deux semaines plus tard que vraiment là, le grand mouvement de grève générale que connaît le Québec va exploser. Donc, des villes comme Sept-Îles, par exemple, vont passer sous contrôle des travailleurs pendant quelques temps. C'est dans l'après-Front commun, dans l'après-1972, que le 1er mai devient un moment important, une journée de lutte et de revendication ouvrière. Alors, qu'est-ce qui arrive en 1973? D'abord, les leaders des trois grandes centrales syndicales au Québec sont incarcérés parce qu'ils ont appelé à défier les injonctions en 1972 par lesquelles le gouvernement voulait forcer le retour au travail des travailleurs et travailleuses de l'État québécois et du secteur privé qui étaient en lutte à ce moment-là très, très dur. Alors, ils défient les injonctions, sont condamnés par les tribunaux, sont incarcérés. Et on décide en fait que le 1er mai 1973, on va organiser à travers le Québec des assemblées, des manifestations pour exiger la libération des leaders syndicaux qui sont en prison depuis 3 mois à ce moment-là. Mais en même temps, on craint l'apathie des travailleurs et des travailleuses. pour une bonne raison qui vous rappellera quelque chose en ce printemps 2015, le hockey. Le 1er mai 1973, le Canadien joue contre les Blackhawks de Chicago au Forum de Montréal. Est-ce que les gens vont descendre dans la rue puis lâcher leur TV? Est-ce qu'il va y avoir plus de monde dans les rues de Montréal qu'au Forum? C'est des questions qui passionnent l'opinion publique dans la semaine qui précède le 1er mai 1973. By the way, j'ai appris que les Canadiens avaient gagné 4-1 ce soir. Alors, parce que en fait, c'est étrange, on est comme dans l'après-Front commun et ça va pas très bien. Il y a des divisions au sein du mouvement ouvrier qui sont très très fortes, très dures, entre la CSN et la FTQ en particulier dans le secteur de la construction. Et donc, c'est assez fragile, cet équilibre-là qui s'était créé, puis cette unité qui s'était forgée dans la lutte. Alors, à la grande surprise et au grand, grand plaisir des organisateurs et des organisatrices, le lendemain du 1er mai, c'est pas le hockey qui est en première page des journaux, c'est les manifestations. Alors, à Montréal, il y a 20 000 personnes qui sont descendues dans la rue, et c'est considéré comme une manifestation gigantesque. Incroyable! Donc, 20 000 personnes. Aujourd'hui, est-ce qu'on considérerait ça comme un succès ou un échec en termes de participation? Là n'est pas la question. À l'époque, c'est que c'est la première grande manifestation qui s'organise après une manif où il y a eu un mort dans les rues de Montréal, le 1er octobre 1971, lors d'un conflit au journal La Presse. Donc, c'est la première fois qu'on arrive à redescendre en masse dans la rue sans que la police lève le petit doigt. Mais il faut dire qu'il y a un service d'ordre assez élevé aussi, composé de plusieurs centaines de travailleurs du gaz métropolitain avec leur casque de construction, un groupe d'infirmières aussi dans le service d'ordre à Montréal, et des permanents de la CSN. Bref, quand il y a un feu de pancarte qui est allumé, ben le feu est rapidement éteint. À Québec, le 1er mai 1973, c'est la première manifestation qui est organisée aussi. Je reviendrai. Donc, on a des photos ici de la manifestation à Québec. Donc, le 1er mai 1973, ça c'est une scène que vous reconnaissez. On est devant l'édifice de la CSN, qui est ici sur le boulevard Charest. Là, il y a l'ancien terminus d'autobus, qui est aujourd'hui le fusée. Et la manifestation, donc, se donne rendez-vous devant l'édifice de la CSN, sur le boulevard Charest, et va marcher dans les rues de la basse ville pour revenir à son point d'origine, où, tenez-vous bien, un feu d'artifice est déclenché et un bal populaire est organisé dans la rue. Mais comme il pleut, l'activité se fera à l'intérieur, après le feu. Alors, ce qui est intéressant de ce 1er mai-là à Québec, c'est que, bon, les journaux disent, bon, la foule, 3000 personnes, c'est super, c'est plus qu'on l'espérait. Majoritairement, c'est des étudiants et des jeunes travailleurs politisés. Il y a aussi un facteur générationnel qui est important à travers ce regain des luttes ouvrières. Et cette radicalisation-là, c'est bien certain. Il y a des gens qui viennent de Sept-Îles et de Rimouski pour participer à la manifestation de Québec, et plusieurs groupes populaires de défense de droits sont présents. On ne les nomme pas comme tels, mais depuis 5-6 ans à Québec, dans les quartiers centraux, dans les quartiers populaires, il y a des groupes qui se mettent sur pied, et il y a des alliances qui existent avec des militants syndicaux aussi. Donc, ce n'est pas strictement une manifestation syndicale, c'est beaucoup plus large que ça. Ce qui est étonnant aussi de ce 1er mai 1973, c'est l'appui que le Parti québécois donne au mouvement. Pas un petit appui, un gros appui, un appui très large, très vocal, très fort, très radical. La voix des travailleurs à l'Assemblée nationale, c'est le Parti québécois. Tel quel. Mais ça tranche avec l'attitude qu'ils ont eue dans les deux années qui précédaient. Depuis deux ans plus tôt, ils n'avaient pas appuyé la grève de façon très, très nette. Ils n'avaient pas non plus appelé leurs militants à participer à la manifestation du 1er octobre 71 qui avait tourné à l'émeute policière où il y avait eu mort d'une manifestante. Donc, ils se tenaient quand même à une distance raisonnable des éléments les plus radicaux. Mais il y a une aile gauche au Parti québécois qui défiait la direction, qui était une aile plus syndicaliste, plus proche des syndicats, de la CSN en particulier. Et le 1er mai 73, on voit le PQ là, se déployer dans les manifestations, en parallèle aux manifestations. Mais il y a une raison évidente à ça, c'est qu'il y a des élections qui arrivent au mois d'octobre. Élections où le Parti libéral va être réélu avec une majorité écrasante. 102 députés sur 120. Le Parti québécois a 6 députés à l'Assemblée nationale et forme l'opposition officielle. C'est vous dire. Donc, quand on pense à un mouvement social qui va très loin, qui franchit toutes les barrières, qui va au-delà de ce qu'on a pu penser, débouche pas nécessairement par un résultat électoral au bout du compte qu'on peut comprendre ou analyser de façon raisonnable. En fait, c'est tout l'inverse qui se produit. Ce qui est intéressant aussi de ce 1er mai 1973, c'est que pour plusieurs, c'est la preuve, en tout cas A plus B, par la mobilisation, que, et je cite, « vient de naître une conscience de classe chez les travailleurs québécois. Une fête qui est probablement sans précédent dans les annales du Québec. C'était la fête de la libération. C'était la fête de la conscience. » Donc vraiment, il y a un espoir très, très présent et que la presse relaie. Donc, les revendications, ça porte beaucoup sur la libération des trois chefs syndicaux incarcérés qu'on voit ici en bas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le lien dans la presse proche du mouvement syndical avec ce qui s'est passé à Chicago en 1886, qui est à l'origine de la tradition du 1er mai. Donc, de fêter le 1er mai, c'est pas juste de le souligner un petit peu. Il y a des cahiers complets dans, par exemple, un hebdomadaire qui s'appelle Québec Presse sur l'histoire du mouvement ouvrier. Donc, on essaie aussi de se rappeler, de souligner cette histoire-là. Mais étrangement, on ne fait nulle part mention de la première manifestation du 1er mai à Montréal en 1906. Donc ici, l'affiche est en rouge, là, ici, hein, 1er mai, fête des travailleurs. De toute évidence, ce n'est pas une photo prise au Québec, là, ça a l'air d'avoir été une photo prise en France. On voit deux jeunes avec des drapeaux noirs. Voilà, en fait, l'affiche officielle qu'on voit dans le journal Québec Presse, notamment, qui annonce la manifestation à Montréal et à Québec le 1er mai. Donc ici, on voit les revendications. Emprisonnement des syndiqués et de trois présidents, les injonctions et les locales, les amendes aux syndiqués et aux syndicats, les juges au service du pouvoir, le sort fait aux étudiants, la déclassification des enseignants, le bill anti-grève 89, la répression antisyndicale au Québec. Autant de questions qui sont encore aujourd'hui, en 2015, très présentes. À l'exception que, à l'époque, les grèves illégales sont légion. Il y en a énormément. Quand on parle de répression syndicale, antisyndicale, c'est notamment à ça qu'on fait mention. Le 1er mai 1973, il y a plus d'environ 5 à 6 000 travailleurs et travailleuses qui font des grèves illégales dans la province. 2700 à Sorel, chez Marine Industrie. Gaz métropolitain à Montréal, 700 personnes. Plusieurs usines à Saint-Jérôme. À l'hôpital Rivière-des-Prairies, 1200 travailleurs refusent de payer leur repas dans les cafétérias pour participer au mouvement. Moi, ça me rappelle ce qui se passe en Italie à la même époque, où on fait de l'autodéduction une tactique de lutte. Et il y a des teach-ins organisés, des assemblées dans la plupart des cégeps de la province. Le 1er mai 1973, à Paris, il y a un groupe de 50 Québécois qui manifestent le 1er mai, avec des pancartes de la CSN. Mais bon, le mouvement est en train de se fissurer. Ici, ça, on voit pas, c'est pas très net, mais ici, on a, au même moment où on célèbre la lutte intersyndicale, l'unité des travailleurs par-delà les affiliations syndicales, qui semble être le gain de 72, il y a des publicités dans le journal Québec Presse où la CSN Construction dénonce la FDQ Construction, qui associe la CSN, la CSD à des rats, à des patrons, à des bandits, puis on dit « Opération anti-pollution, la FDQ va faire le ménage dans l'industrie ». Donc, c'est vous dire que l'unité, entre ce que disent certains et comment c'est vécu à la base, il y a une petite différence qui se vit. En 1974, l'année suivante, après l'euphorie, un peu de réalisme, à Québec en tout cas. Peut-être à cause du fait que c'est pas juste à Québec et à Montréal qu'il y a des manifs cette journée-là, mais dans 13 villes différentes. Donc, il y a moins de monde à Québec, il y a moins de monde à Montréal. Par contre, le mouvement s'étend ailleurs. On souligne le 1er mai un peu partout. Les revendications sont légèrement différentes. Là, on veut lutter contre les effets de l'inflation sur les conditions de vie et le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses. On veut ouvrir les conventions collectives pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Il y a beaucoup de grèves illégales le 1er mai 1974. Dans 50 hôpitaux, on ralentit ou on quitte le travail. Dans l'intercom de l'hôpital Saint-Charles-Borromée, on diffuse des slogans et des chansons syndicales toute la journée. Des grèves affectent aussi la diffusion d'émissions à la CBC et à la Radio-Canada. On va remplacer le téléjournal par un film. Y a des débrayages illégaux dans les écoles secondaires, dans des cégeps, à la Société de transport de Montréal, dans des manufactures, dans des compagnies de gaz. Et à Québec, il y a 2000 ouvriers qui sont en grève illégale également. À Joliette, théâtre de nombreux conflits très durs pendant les années 70, 7000 personnes font la grève illégale sur une population de 20 000 habitants. À la demande des syndicats locaux à Joliette, la plupart des commerces et des banques ferment leurs portes pendant le 1er mai. Et il y a même des syndicats qui font grève cette journée-là pour que le 1er mai devienne un jour férié chômé. C'est pourquoi ils sont dans la rue et c'est pour ça qu'ils font la grève. Bon. Après 1974, le 1er mai s'institutionnalise peu à peu. Et tranquillement, pas vite, devient ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose qui revient année après année, en tout cas à Montréal, parce qu'il y a là-bas une instance qui l'organise depuis 30 ans. Mais en même temps, s'il n'y a pas de poussée sociale très forte, ça devient, grosso modo, une parade annuelle qui revient d'année en année pour souligner, des fois on se demande quoi, parce que le pourquoi, l'histoire n'est pas vraiment non plus mise de l'avant, vraiment. Donc, mais quand il y a des moments, puis en fait, l'importance symbolique du 1er mai, la force du 1er mai, dépend pas nécessairement du nombre de personnes qui sont dans la rue. Vous avez peut-être participé dans les années 2000 à une manif du 1er mai à Montréal, en tout cas moi j'y étais, où on était 100 000 dans la rue. Je me rappelle même pas quelle année c'était. Je veux dire, c'est quelque chose qui est passé, sur le coup, un chiffre impressionnant, mais qui passe pas à l'histoire véritablement, parce que ça ne débouche sur aucun mouvement social. Et ça ne venait d'aucun mouvement social nécessairement avant. Donc, il n'y a comme pas de débouché à ces grands moments-là. Par contre, le 1er mai prend tout son sens peut-être cette année, en 2015. Alors que, pour la première fois, le mouvement communautaire et populaire fera la grève. Et que depuis très longtemps, on n'a pas vu ça, que des grèves illégales vont être aussi déclenchées dans plusieurs cégeps dans la province. Puis en même temps, ça met encore une fois à jour des divisions sur le sens que doit prendre la lutte. Ces divisions-là sont profondes dans nos organisations, malheureusement. Donc, pour vous, le 1er mai, cette année, ça rime à quoi? On va avoir l'occasion d'en discuter ensemble après la pause. Oh.